participeront au JO de Paris.
Oui, c'est sûr.
Eh ben, écoute, on va tout de suite lancer le générique de fin. Ben, on vous retrouve puisque tu seras avec Alex mardi prochain, donc le 27. Et puis, ben, moi, ça sera le 2 juin que je retrouverai. Allez, bon mardi à vous. Et puis, ben, pour Max et Alex, ça sera la semaine prochaine.
À l'écoute de Masque Noir avec ce soir vos fidèles complices que sont Luc, Linda et Toups, sous la férule de votre serviteur zélé Julien. Une émission enregistrée de bien mauvais genre, un peu particulière, puisque dédiée à Georges-Jean Arnaud et Maj Showall. Good evening, Anjou!
Honey and me make boo-loo-loop soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I come make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, and nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, and nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'espionnage. Vous vous en doutiez peut-être, vu que l'on vient d'écouter l'une des musiques cultes de James Bond contre Dr. No, un film de Terence Young sorti en 1962. Je ne résiste d'ailleurs pas à l'envie de vous faire redécouvrir la rencontre entre Sean Connery et Ursula Andress.
Underneath the mango tree, my honey and me.
Who is that?
It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone?
What are you doing here? Looking for shells?
No, I'm just looking.
Stay where you are.
I promise I won't steal your shells.
I promise you, you won't either. Stay where you are.
I can assure you my intentions are strictly honorable.
Alors, quand on pense espionnage, deux agents très spéciaux nous sautent à la figure.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
James Bond et Hubert Bonisseur de la Batte.
C'est mon accent qui vous fait rire.
Mais non, pas du tout.
Vous êtes raciste.
Mais non, mais je vous jure que non. J'ai même longtemps vécu en Cochinchine.
Adieu, raciste. Tu vas mourir.
Le premier est l'œuvre d'un ancien espion, Ian Fleming. Il est affublé d'un matricule, 007, qui lui donne le permis de tuer. On a beaucoup parlé de son racisme, du fait qu'il boive et fume plus que de raison. Il est au cœur de 12 romans, dont le fameux Casino Royale, premier de la série et assurément le meilleur, écrit en 1953. On pourrait s'arrêter quelque peu sur Moonraker, qui a été odieusement trahi par le cinéma, à tel point que le roman et le film n'ont que très peu à voir. Surtout si on rajoute le fait que, bon, c'est Roger Moore qui est James Bond. Roger Moore, le gars qui a permis l'intronisation de l'espion en Marcel. Bon, voilà, c'est pas très, 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 très classe. Hein. Bon, on pourrait également regretter qu'hormis Casino Royale, les autres romans n'ont pas subi le dépoussiérage de coutume pour les traducteurs et les traductions. Les romans sont presque illisibles aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Ian Fleming était un homme de son époque, et James Bond, quelque part, en est un témoin de fiction. J'insiste sur le côté fictionnel. Le second, il faut suivre, est imaginé par Jean Bruce. Alors, à moins qu'il ait particulièrement bien caché son jeu, Jean Bruce n'a jamais été espion. C'est un pur écrivain, qui plus est de fiction, qui plus est prolifique. La série OSS 117 débute en 1949 et compte plus de 86 volets de sa plume, sinon 250. Il faut dire que les années 1950-1960 sont particulièrement propices au genre de l'espionnage. Et oui, nous sommes en pleine guerre froide. Du coup, les collections foisonnent chez les éditeurs. La plus connue est incontestablement la collection Espionnage du Fleuve Noir. Et vous pourriez aller plonger dans un bon vieux Paul Kenny, dont le personnage de Francis Copeland mérite lui aussi le détour. Ceci étant dit, il me paraît important de faire une pause musicale culturelle en compagnie de Jean Dujardin dans OSS 117, Le Caire Nid d'Espions.
Eine gibt's auch, gelbe Kanin, Melus Hasin, Magic Schnum. Melekulium, улит на сном. Рак бинес, дымши фишарья, ауэс. Кукулила, гудем бельха, тестам не а. Хабил бы звез ел бульбул,
мамино, мамино.
Уфи бери рак бнум,
мамино, мамино.
Вилули улит мхабул,
мамино, мамино.
Нзел дебез ел бхалул, تلعب مزيان بلا ماندولين يا ولدي بامبينو الموسيقى شحال نبعتها والبلوعه كيما ريحة النيل غني غني بصوت حنين يا ولدي بامبينو فهمي واش راح تتمنى لازم عليا اليوم تنساها حبي تبزبز قلب البول وفي الديري راك تقول بلولي ولي معقول Mais je te passe le ballon,
partons d'ici.
Je te passe le ballon.
La musique est assourdie sans ballon.
Abitrani à Boulbon. Ou fait périr à Codon. Et l'on est où les ballons.
Ah là là, sacré bambino. Si le Caire est un nid d'espions, Michel Hazanavicius a tout compris de la comédie réussie d'espionnage telle qu'héritée de George Lautner et de ses Barbeaux, film culte tourné en 1964.
Attention ! Voilà les Barbeaux. Chacun son style. N'ayant rien de commun avec les tristes brutes popularisés par une littérature regrettable, les barbous sont avant tout des techniciens, des raffinés. Si, d'une manière générale, la barbouze demeure la synthèse des belles manières et du dynamisme, cette définition n'exclut pas pour autant certaines particularités folkloriques, telles que charme slave, délicatesse américaine,
2 millions, remember,
bonhomie germanie, ruse florentine, vieille gaieté française. Produit bien de chez nous, issu de nos commandos et de nos cours du soir, voici Francis Lagneau, dit chérubin, dit talon rouge, dit requiem. Un garçon subtil et bien portant.
Vous ne craignez pas d'avoir été un peu vif ?
La France s'est fait le chantre de la comédie d'espionnage et on ne peut que la remercier. D'ailleurs, Pierre Dac et Francis Blanche, qui avaient déjà signé un feuilleton radiophonique lui aussi culte, signé Furax, y ont eux aussi fait une jolie incursion. En 1980, Marc Simenon réunit une brochette d'acteurs plus prompts à dégainer leurs jeux de mots foireux que les pistolets avec leurs silencieux qui font plop, plop. Gardons en mémoire la réplique de Coluche lorsqu'il se fait traiter au téléphone de triple buse. Double, double, je ne suis qu'agent double quand même. Et rendons grâce au grand Babu.
Chaviro !
Chaviro !
Rotantachar !
Rotantachar !
Chavipataro !
Chavipataro !
Rogria Patacha !
Rogria Patacha !
Des filles, des madames, des noix, des madames, des filles, des filles, des madames, des noix, des madames, des filles. Tout le monde y pue, il sent la charogne, y'a que le grand Babu qui sent l'eau de Cologne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur, y'a que le grand Babu qui a la bonne odeur. Chaviro, chaviro, tatachat, tatachat, chavi pataro, rogria patachat, chaviro, chaviro, tatachat, tatachat, chavi pataro, rogria patachat.
Il existe au XXe siècle deux périodes tranchées et importantes. Une qui court avant la Seconde Guerre mondiale et l'autre après. Avant, c'est le héros traditionnel avec un peu de romantisme et des enjeux essentiellement géopolitiques, avec l'apparition d'une richesse, l'or noir. Stratégiquement, ils sont plutôt basés au Moyen-Orient ou dans les Balkans, une zone particulièrement explosive. Et oui, avec l'éclatement de l'Empire d'Autriche-Hongrie, on a une résurgence des nationalismes qui conduiront à la Seconde Guerre mondiale. Certes, le père de cet espionnage s'appelle John Buchan. L'auteur des 39 marches, adapté par Alfred Hitchcock, est également baron et homme d'État, gouverneur du Canada. L'histoire se rappelle que c'est le père littéraire d'un espion malgré lui, Richard Honey, mais aussi que lui mourra en se rasant devant son miroir. La série autour de Richard Honey, initiée avec les 39 marches, excellent roman, compte réellement 6 volets aujourd'hui disponibles dans une anthologie chez Omnibus. Je préfère de loin un autre de ses romans, La Centrale d'énergie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on touche à tout ce qui est au cœur de l'espionnage moderne, la lutte des États pour l'obtention de matières premières fossiles. Et là, on peut dire en quelque sorte que John Buchan est un précurseur d'un genre dans lequel va s'infiltrer, s'engouffrer, un autre Britannique. Qu'est-ce qu'ils sont balèzes ces Britanniques quand même ? Eric Ambler. Alors, Eric Ambler, c'est un maître du genre. Et quel maître !
Demetrius, utterly without scruples, completely immoral, but fascinating.
I feared him, yet I loved him.
As far as I know, no government ever caught Demetrius.
And I knew I hated him enough to kill him.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Peter Lorre dans un film de 1944 de Jean Negulesco. L'ambiance est digne de Casablanca. Et il y a Peter Lorre, ce même Peter Lorre qui a joué dans la première adaptation télévisée de Casino Royale. La boucle est bouclée. Mais là, il s'agit du masque de Dimitrios. Si vous ne devez en lire qu'un roman d'Eric Ambler, prenez le masque de Dimitrios. Surtout qu'en ce moment, il vaut toujours mieux avoir un masque avec soi. Mais en lire qu'un des romans d'Eric Ambler serait dommage. Car Eric Ambler, c'est un visionnaire. Il décrypte en temps réel les rouages géopolitiques du monde et il en sort des intrigues délicieuses à souhait avec des mécaniques bien huilées. Et en plus, cerise sur le gâteau ou gadget sur l'agent secret, c'est particulièrement bien écrit. On ne peut que louer François Guérif d'avoir republié une partie de son œuvre dans la collection Rivage Noir. Mais écrit dans les années 2000, les romans d'Alan First revisitent la même période que celle d'Eric Ambler, à savoir l'entre-deux-guerres. Ce coup-ci, donc, on est en plein roman d'espionnage historique. Certains ont été publiés chez L'Olivier, et je tiens L'Officier polonais, qui a été adapté en une mini-série il y a quelques années pour Arte, comme l'un de ses meilleurs. Avec celui-là, on clôture une époque, puisqu'il se déroule au moment de l'invasion allemande et soviétique de la Pologne, et que cet officier polonais a pour mission de faire partir un train chargé d'or en dehors du pays dans le plus grand secret.
This life we have, this life we love, could all vanish just like that.
When the world is on the edge.
This is not about mentality, this is about facts. The Germans are planning to invade France.
Can love ever survive?
The embassy doesn't want me to see you anymore.
I need you, Anna.
You'll survive without me, Jean-François. If any of us survive at all.
Spies of Warsaw.
Il y a du romantisme et de l'épique. L'auteur n'a pas eu le succès escompté en France, puisque, de l'aveu même de son éditeur, il n'y a que moi pour l'apprécier. Alors, détrompez-le et allez le lire. C'est comme Eric Ambler, mais avec 80 ans de recul. 5 romans, tous différents, ont ainsi été publiés chez L'Olivier. Après-Seconde Guerre mondiale, Hypocras, Danger immédiat, premier roman de la série L'espion sans nom du romancier Len Deaton, sorti en 1962. Aujourd'hui épuisé, vous pouvez les découvrir chez votre bouquiniste aux éditions 10-18. Les 3 premiers ont ainsi la réputation de Michael Caine, et ce n'est pas le thème de John Barry qui écartera toute notion de paranoïa et de mystère pour une intrigue où le lavage de cerveau de scientifiques britanniques revêt une importance capitale pour une puissance étrangère. L'espionnage anglo-saxon vit ses grands jours. Il y a du machiavélisme, de la manipulation et des plans tordus. Il y a d'abord 2 auteurs majeurs qui se détachent. Hasard ou pas, ils ont tous les deux été, eux aussi, dans les services secrets. John le Carré et Graham Greene. Le premier avec sa série consacrée à George Smiley, un agent au crâne dégarni au physique éloigné de celui de James Bond, frappe fort dès la sortie de L'espion qui venait du froid en 1964. Ou comment réussir une exfiltration sans coup férir. Le second, avec The Human Factor, en 1978, qui prend ses sources dans l'apartheid de l'Afrique du Sud, est un modèle du genre rapproché de son précurseur. On notera que le terrain s'est transposé sur un autre continent. Mais l'auteur également du Troisième Homme a peut-être une plus grande densité dans son œuvre que John le Carré. A noter que The Human Factor est également le dernier film réalisé par un certain Otto Preminger. Un dernier chef-d'œuvre avec l'inoubliable et volumineux acteur de théâtre Robert Morley. Enfin, parmi les grands romanciers du genre, Robert Little l'auteur du, là aussi très très volumineux, roman La Compagnie, disponible chez Point. Vous pouvez retrouver ses romans aussi aux éditions Baker Street. Et bien sûr, autre romancier, James Grady, avec Les Six Jours du Condor, que vous pouvez lire aux éditions Rivage, et qui a été adapté en version courte, puisque sur 3 jours, par Sidney Pollack. Comme ses maîtres avant lui, James Grady nous amène à douter de la réalité et à voir des complots un peu partout. Mais je rappelle que ce n'est pas parce qu'on est complotiste qu'il n'y a pas de comploteur. On termine cette chronique d'espionnage avec le thème de Dave Grosin, et je laisse la parole à Luc. Radio G 101.5 FM.
Avec le confinement, j'ai tout essayé pour contourner les autorisations de sortie. Et en ces derniers jours, la tentation est grande d'à nouveau transgresser. Mais je suis un adulte, alors je vais encore une fois franchir l'obstacle en vous proposant un voyage, mais cette fois-ci dans le temps. Je vais remonter jusqu'à la fin du 19e siècle, une période où le roman policier semble s'extraire de la gangue de la littérature romanesque et d'aventure. Et c'est un de ces premiers romans que je viens de lire, judicieusement réédité par les éditions Le Petit Pavé, Chair fraîche sur le pavé de Paname de Maurice Drac, rien qu'au titre, on en frémit. Comme dans les meilleurs romans policiers d'aujourd'hui, Maurice Drac va exposer deux intrigues qui, comme il se doit, se trouvent en réalité intriquées. Au cours d'un voyage, Maxime Charlie remarque une jolie jeune femme, aveugle, accompagnée d'un homme au visage pour le moins patibulaire. À l'arrivée à la gare, il rencontre son ami Christian Severus, qui reconnaît en la jeune femme un amour de jeunesse. Et dans le même temps, ce même Maxime Charlie est confronté à un étrange mystère, la disparition de son parrain, Max Puyraveau, agent immobilier, à qui trois clients potentiels lui ont demandé d'effectuer des transactions à gros budget. Et son ami Christian Severus va disparaître. À partir de ces deux intrigues, Maurice Drac va user des moyens qui nous sont devenus si familiers à nous aujourd'hui, amateurs de polar. Cela commence par une poursuite à travers Paris en calèche. Maxime et Christian décident de suivre la jeune aveugle et son ange gardien. Je ne vous mens pas. De par son style, de par les descriptions, cette poursuite est digne du meilleur James Bond. Fausses pistes, chausses trappes sont au rendez-vous. Jusqu'à l'inévitable, les deux amis étant découverts se font leurrer et perdent la trace de la belle jeune femme. Mais surtout, Maurice Drac va utiliser un dispositif bien connu des amateurs des super-héros de la collection Marvel. Maxime, pour résoudre cet ensemble de difficultés, va s'adjoindre les services d'une petite association composée de 6 compagnons, les Flemmards, qui ont élu domicile dans une ancienne abbaye nichée dans le 6e arrondissement de Paris. Ces 6 personnages sont tous dotés de qualités particulières. Bon, d'accord, pas de super pouvoirs, mais la chimie, la musique, la force physique, et ils sont tous désintéressés, et en prime, ils partagent tous courage et abnégation. Ils sont dirigés par Escouloubès, forte personnalité, et Toulouse. Cette association s'appuie sur un mode de fonctionnement dont d'aucuns pourraient s'inspirer aujourd'hui. Après de multiples raisonnements, ils en sont arrivés à conclure qu'un homme n'a besoin que de travailler 1/6 de son temps pour subvenir à tous ses besoins. Partant de ce principe, chacun des membres doit à la collectivité 2 mois de travail et use des 10 autres à sa convenance, chacun à tour de rôle. Intéressant, non? Enfin, pour l'exotisme, Maurice Drac va y adjoindre au héros des Tziganes, une jeune et belle femme impétueuse et romantique, comme il se doit, et un vieux musicien madré. Dans ce roman, toutes les turpitudes de la société sont exposées, appât du gain, perversion, violence, mensonge. On appréciera tout particulièrement cet étrange religieux libidineux qui dirige une communauté faite uniquement de jeunes filles dont il use, je dis bien il use, comme il entend. Et la critique sociale n'est pas loin, cette association des flemmards remet en cause l'argent roi déjà. Je vous cite justement un passage à ce sujet. Chacun combat pour soi, sans s'inquiéter du prochain, et le vieil esprit chevaleresque français a été étouffé par ces 2 axiomes d'importation anglaise et américaine, Time is money et Struggle for life. Maurice Drac se frotte aussi à l'érotisme, un érotisme suggéré, certes, on est en 1887, mais un érotisme torride quand même. Est-on dans le polar avec ce roman? C'est difficile à dire. On est dans la lignée des feuilletonistes de l'époque, par le rythme et aussi par les personnages, mais il s'agit bien d'un roman qui annonce, évidemment, Maurice Leblanc ou Gaston Leroux. Si l'interrogation sur la caractérisation de polar se pose, c'est qu'il faut se rappeler que la même année, en 1887, paraissait Une étude en rouge, première aventure de Sherlock Holmes, et surtout, en 1865, plus de 20 ans avant, c'est la parution de L'affaire Le Rouge, d'Émile Gaboriau, que je ne saurais trop vous recommander. 2 romans beaucoup plus proches du genre polar d'aujourd'hui. Mais qu'importe ces ratiocinations, ces débats d'exégètes, Chair fraîche sur le pavé de Paname est un roman bon vivant. En ces temps de confinement où on est lassé d'avoir relu, parce que bien évidemment tout le monde ne fait que relire, Camus, Platon, Proust, Baudelaire, Deleuze, Bourdieu et Nietzsche, surtout Nietzsche. Ça fait du bien de lire un roman léger et enlevé. C'est parfaitement bien écrit, il y a du rythme, de vrais personnages, que demander de plus ? Cher Fraîche, sur le pavé de Paname est publié aux éditions Le Petit Pavé. Je ne dirai jamais assez le beau travail que fait Gérard Cherbonnier et cette petite maison qu'il porte à bout de bras. Le livre est disponible au format numérique pour la modique somme de 9,99€. Pourquoi se priver ? Alors, comme musique tzigane il y a, ne nous privons pas d'écouter Titi Robin.
Radio G 101.5 FM. Thank you.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors là, moi, je vous appelle, je suis avec Toups. On a décidé de faire une super chronique ensemble. Nous avons choisi un film très récent qui date de 2011.
Enfin, de fin 2011.
Oui.
De décembre 2011.
Donc,
c'est presque déjà 2012.
Qui s'appelle Le secret de la licorne. Donc, moi, c'est mon film préféré de Spielberg, pour tout vous
Tintin,
dire.
Tintin, ouais. Le secret de la licorne. Ouais.
C'est un film, vraiment. Donc, il y a de l'animation, notamment Milou est fait uniquement en animation, donc à base d'une marionnette et après c'est numérisé. Mais c'est vraiment, sont vraiment avec des vrais acteurs. Alors, Toups, tu me disais ça en anglais, la capture de mouvement, ça s'appelle ?
Motion capture.
Voilà, donc ça veut dire que les comédiens, ils ont des capteurs, mais ils jouent vraiment. Et puis après, il y a un travail qui est fait d'animation pour qu'ils ressemblent au personnage de Tintin. Alors, ce n'est pas une histoire de Tintin, hein. C'est un scénario qui a été complètement réécrit à partir de plusieurs albums, quoi. Et pourquoi on vous parle de ça ensemble ? C'est parce que Toups va nous parler du célèbre monsieur qui a fait la musique et qui s'appelle...
Qui s'appelle John Williams.
Alors,
ouais, John Williams, qu'il ne faut surtout pas confondre avec John Williams, le guitariste, le célèbre guitariste australien, qui est vraiment célèbre. C'est fou quand même.
Et donc là, tu nous parles du John Williams qui a collaboré depuis de très 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 nombreuses années avec Spielberg.
Oui, qui est le compositeur attitré de Steven Spielberg.
Bon, en tout cas, c'est un gars qui, bah, là pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de monde qui le connaît, qui n'a pas commencé, c'est pas un Garen de 3 semaines. Hein.
Non, il a commencé à faire des films en 1961, et je me suis demandé si je ne ferais pas la chronique juste en faisant la lecture des titres des films qu'il a composés depuis, de musique qu'il a composée pour les films depuis 1961, parce qu'il y en avait 2 pages pleines.
Oui. Dont certains très connus, moi je connais, enfin je fais pas forcément la relation avec beaucoup, mais par exemple Harry Potter,
Les Aventuriers de l'Arche Perdue.
Ah oui, aussi.
Ah oui.
Oui, donc il y en a une flopée. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour. Oui.
Ah non, ça c'est Star Wars.
C'est Star Wars.
C'est comment déjà Les Aventuriers de l'Arche Perdue ?
Peut-être tu peux nous parler du style musical.
Alors oui, c'est quelqu'un qui a fait. Qui a fait beaucoup pour la reconnaissance de l'orchestre classique symphonique dans la musique de film, parce qu'il a réussi à, par l'écriture de thèmes forts, très forts, et qui imprègnent vraiment le spectateur, qui est auditeur par malgré, parce qu'il regarde les images et en fait il est imprégné par la musique. Et il a réussi à faire accepter cette musique qui au départ de l'action n'était pas forcément. Alors après, c'est assez. Il y a des gens qui disent que c'est la musique symphonique pour les nuls. Il y a des nuls qui parlent.
Vous avez entendu le générique du Secret de la Licorne, hein, c'est ça qu'on a mis au départ.
Le générique, justement, c'est pas du tout de la musique symphonique.
C'est pas de la musique symphonique, mais quand tu dis pour les nuls, je veux dire c'est hyper. Enfin, c'est très très technique, ouais, pointu. Ouais. Enfin, c'est énorme, quoi, ouais, comme musique.
Ouais, ouais, donc, ouais.
Et effectivement, de bien redire, ce sont de vrais instruments. Hein. Mmh. C'est pas.
Alors moi, ce que j'aime bien avec ce générique, justement, c'est que je rends hommage à ce pianiste français que j'adore.
Pourquoi tu me regardes comme ça dans le blanc des yeux ?
Parce que je voudrais que tu me dises le nom.
Ce
pianiste français, philosophe. Il n'est pas docteur en philosophie, mais presque. Non, il est agrégé, je crois. Il est agrégé de philo. Pianiste de jazz. Tu sais qui avait fait la première tournée de Abdelmalik ?
Non, je ne sais pas. Je ne sais plus.
Oui, parce qu'Abdelmalik.
Peut-être tu feras un petit montage et tu vas faire Ah oui ! Et tu vas retrouver le nom. On va faire comme ça.
On va couper au montage. Et donc, ce pianiste français qui disait quand même. Le jazz, c'est la musique classique du XXe siècle. Dans Tact, le gars, il est musicien de jazz au départ. Pas Steven Spielberg, pardon.
Non, pas franchement.
John Williams. John Williams, c'est quelqu'un qui a appris le piano, qui a appris le tuba, la trompette, le trombone, et qui s'est produit dans des orchestres de jazz. Et lui, son truc, c'était le jazz. Il a fait des écoles de jazz et tout ça. Et c'est presque par hasard qui s'est retrouvé dans la musique classique. Je vais pas raconter toute l'histoire de John Williams, non, parce que sinon ça va être trop long. Elle est très très longue. Il a 88 ans, donc ça peut prendre beaucoup de temps.
Ça commence à faire une certaine quantité de... Ok, bah super. D'ailleurs, on va réécouter le générique et puis tu vas nous aider à mieux le décrypter, à mieux l'entendre.
Avec plaisir.
Ok.
Bon, désolé, mais je dois vous dire un mot avant parce que après ça va aller entre très vite et très très vite. Le morceau en question n'est autre que le générique d'ouverture du film. Il est exceptionnellement riche. Alors je vais me concentrer sur la base, car c'est ça qui permet de faire entendre les mélodies, les chants, les contre-chants, si je peux me permettre. Le tempo est de 134 BPM, pour ceux à qui ça parle. Ce qui est donc l'équivalent d'un allegro, comme disait Raymond Devos, ou d'un prestissimo quand il redouble de vitesse. Le générique d'ouverture commence donc par un thème de basse qui a une sonorité toute particulière parce qu'il s'agit d'un mélange de main gauche du piano avec une main gauche de clavecin et une clarinette basse, à moins que ce soit une clarinette contrebasse. Le thème va se renouveler toutes les 7 mesures, 6 plus 1. La batterie joue juste le charlet offbeat, parce qu'il sert de contrepoids et maintient une tension dans la pulsation. À la fin du deuxième thème de basse, on a l'ébauche d'un premier thème qu'on aura souvent dans le film. Et la septième mesure sert pour la relance par le clavecin. Voilà le thème et la relance. C'est le clavecin qui invite la contrebasse à danser. C'est-à-dire qui invite la contrebasse à doubler le tempo. Que dans cette écriture, le pari, c'est ça. Inviter dans le jazz des instruments qui n'ont pas été consacrés par le jazz dans sa période de création effervescente qui a été le XXe siècle, les entraîner sur la pente grisante du partage de nos richesses. Évidemment, la volée de cloche est complice et amène la modulation, le changement de tonalité. Le jazz est la musique classique du XXe siècle. Alors c'est le clavecin qui a invité et entraîné la contrebasse à la place de tempo. Le bandoneon s'invite également, plus on est fou. Les tensions du bandoneon avec les doubles croches comme ça. Et là, l'alliance de deux instruments, bandoneon et clarinette, qui crée un nouvel instrument, une sonorité que l'on connaît pas. Multiples déclinaisons du thème de base dans différentes tonalités. Cette pulsation, encore cette tension avec les bandonnées, encore le crush. Et le clavecin qui est toujours là. Du thème de basse de l'introduction. Contrebasse jazz du XXe siècle et clavecin du XIVe siècle.
Il a trouvé.
Laurent de Wilde.
Ouais, bravo Toups.
Et oui, fabuleux pianiste français de jazz, entre autres.
Bon, alors moi j'avais envie de parler de l'admiration que j'ai pour les comédiens qui ont joué là-dedans. Parce que c'est quand même une sacrée prouesse de jouer dans un environnement qui n'est pas du tout un environnement de jeu. À savoir, par exemple, ils ont tourné dans un hangar, par exemple, et à un moment donné, Tintin est dans un parc, il est coursé par un chien. Ben, en réalité, en fait, le comédien, il court, il saute sur un tapis, etc. Quand ils se parlent, ils ne sont pas dans un bateau, ils sont dans un espace délimité avec des scotch, des barres, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment d'être juste alors qu'on n'a pas un environnement qui l'est, quoi. C'est que de l'imaginaire, et je trouve que ça joue, enfin il y a une super direction d'acteur, ça joue vraiment bien. D'ailleurs, nous, on a vu, revu et re-revu ce film, et c'est incroyable comme il y a des détails de partout qu'on redécouvre en permanence. Et que ce soit l'écriture des dialogues, la direction d'acteurs, c'est vraiment un travail très très fin, quoi, qui a été fait là-dessus.
Entre la direction des comédiens et puis un grand chapeau aux scénaristes, là, on comprend mieux pourquoi ils se mettent à plusieurs pour faire des scénarios.
Ah oui, oui, scénarios, franchement, ce que je disais tout à l'heure, ça a été réécrit à partir de plusieurs histoires. Moi, je trouve
refonte,
ça...
La refonte de trois albums de Tintin, les
Alors attention, je vais dire un truc qui n'engage que moi et que ma responsabilité. Je trouve ça mieux écrit que par Hergé. Ah, c'est tous les couteaux qui m'ont été plantés dans le dos.
Ah oui, non, mais ça doit saigner un peu.
Ouais, mais vraiment, je trouve que le scénario tient mieux la route, quoi. Bon, bref, après, toi, tu voulais me parler, tu me disais tout à l'heure, les comédiens en tant que tels. Alors, il y a en comédien connu...
Daniel Craig,
mais c'est le Daniel Craig des James Bond et tout ?
Eh ben oui, ben oui. Oh, tu croyais que c'était quel Daniel
mais j'ai
Craig
pas, mais non, mais j'avais pas fait. Mais oui, mais alors attends, ils lui ont fait une tête. Enfin voilà, on voit pas leur tête, quoi.
Ben
ils ont été retransformés.
Mais
ben
oui, mais c'est lui qui joue Rasputin.
Bien
qui
sûr.
Joue.
Sakharine. Qui joue sucré.
Qui joue Rackham le Rouge.
Moi, tu m'avais dit aussi, il y a un comédien qui s'appelle Jamie Bell, c'est ça ?
Jamie Bell qui s'est fait connaître. Je ne sais pas s'il s'est fait connaître en France, vraiment. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont suivi un film dans les années 90.
Arrête de me regarder fixement, ça me,
oui,
ça,
je crois
ça
que
me met mal à l'aise.
Dans les années 90, oui, ben là, on est en train de parler d'un film de 2011. On peut bien revenir aux années 90. Ça va faire mal à qui ?
La prochaine fois, on parle de Charlot.
Ou des Frères Lumière.
Jamie Bell, quoi.
Ou de cette femme qui a fait des films avant les Frères Lumière.
Oui. Ouais. Donc il faudrait que je retrouve le nom pour vous en parler, d'ailleurs. Bref, donc Jamie Bell.
Eh bien, c'était Billy Elliot.
Ah oui, le fameux petit garçon qui était le personnage principal de Billy Elliot.
Eh oui.
Là, simplement, on a envie, bah, juste parce que c'est trop bien, on a envie de vous faire écouter un autre thème qui est le thème final, le thème du duel, enfin, c'est très du côté épopée, quoi.
Ah oui, c'est un thème magnifique. Alors, c'est de la musique classique, mais écrite par quelqu'un qui certes, aujourd'hui, a 88 ans, mais c'est un film qui est sorti il y a combien de temps, alors, du coup ?
Ben, un petit 20 ans. Un peu moins, mais 19 ans.
Non, il y a 9 ans.
Ah non, il y a 9 ans, pardon.
Il y a 9 ans.
Ouais. Oh là là.
Ah là, tu m'as fait peur.
Ça aussi, tu coupes au montage.
Non, mais je vais couper, t'inquiète, je vais écouter ça.
Et c'est aussi de dire, je me demande comment il fonctionne, rapport image-musique, on se demande si l'image a été créée pour la musique ou la musique pour l'image. C'est tellement entrelacé.
Eh bien, cette fois, ils ont fait un truc, John Williams a d'abord composé toute la musique et enregistré toute la musique. Un an avant.
D'accord.
Un an et demi avant.
Ah,
mais par contre,
c'est pour ça que...
Mais par contre, il y a eu des adaptations après.
Il a fait des retouches.
Il a fait des retouches.
Ok. Oh, oui, donc c'est des allers-retours, quoi.
Ouais.
Ah, en tout cas, c'est magnifique. Allez, bonne écoute.
Thank you.
Incroyable cette musique. Moi je dis, elle est incroyable cette musique, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, puisqu'il y a eu le seul Oscar qui a eu cette... c'est pas le seul prix, hein. Il a raflé plein de prix ce film, mais il a eu un Oscar et ça a été pour meilleure musique de film. Ok, oui. Merci. Au suivant. Mmh. Donc au suivant, ben... est-ce qu'il y aura un suivant? Ben, d'après le communiqué de janvier 2019...
Oh, notre toupe, c'est au taquet.
Il y a eu un communiqué de presse, et oui, il va y en avoir un, mais on ne sait pas encore ce que ça va être. Au début, les gens tablaient que ça serait la suite, et puis en fait, non. Et pour l'instant, on ne sait pas. En fait, ils vont effectivement fondre deux albums entre eux. Ben, oui, les scénaristes vont commencer à bosser. Donc en 2019, il y avait un mot de Steven Spielberg qui disait « Normalement, alors je cite, normalement si tout va bien, il va bientôt se mettre à travailler sur le script. » En parlant de Peter Jackson, parce que c'est Peter Jackson qui va le réaliser cette fois.
Ah.
Oui, la première fois c'était Spielberg qui réalisait et Peter Jackson qui coproduisait. Là, c'est Peter Jackson qui va réaliser et Spielberg qui va mettre des billes dans la production, j'imagine. Mais comme il faut compter 2 ans d'animation sur le film, à votre place, je n'espérerais pas le voir avant 3 ans. Mais Peter va s'y tenir. Tintin n'est pas mort, Spielberg. Voilà. Peter Jackson qui est donc le réalisateur du Seigneur des Anneaux et de Hobbit.
Oui, d'accord. Oui, c'est pas en termes d'animation, c'est pas un petit débutant.
Non, c'est pas.
Bah, de toute façon, je pense que là, vu le niveau qu'il y a eu sur le premier, ils doivent prendre leur temps pour bosser et parce que s'ils veulent rester dans la foulée, il y a une attente de qualité. Mmh. Donc, effectivement, ils ont intérêt à bien prendre leur temps. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, mon Toups? Tu nous as concocté je dirais plutôt une surprise pour la prochaine fois.
Oui, j'ai envie de revenir au thème de la radio dans le cinéma, ou du cinéma qui se permet d'avoir de la radio.
Ce qui est fort à propos pour une radio.
Pour une radio qui aime bien parler de cinéma. Et je ne pensais pas à Good Morning Vietnam, mais je pensais à Do the Right Thing, ce film de Spike Lee de 1989.
Oui, on est toujours dans l'actualité.
Dans l'actualité la plus débridée.
Et la plus fraîche.
Oui, bah, la plus confinée. Donc, une actualité qui... On ressort des choses...
L'actualité qui moisit.
On ressort des choses des placards. Mais dans ces choses qu'on ressort des placards, il y a des petites pépites. Et je vais vous faire entendre une dédicace que fait Senior Love Daddy. Sur la fin de... Non, à un passage, c'est pas la fin, c'est au milieu du film, juste avant le climax. Donc l'animateur radio qui est interprété par
Samuel R.
Jackson. C'est la plus belle dédicace que j'ai entendue de ma vie, personnellement.
Pour la musique
Oui.
Oui. Non, mais parce que...
Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, effectivement. Et donc, c'est une dédicace pour des musiciens.
Voilà, c'était là que je voulais en venir.
Voilà,
en fait.
Et qui ne sont pas que des musiciens de jazz.
J'étais fort maladroite.
Qui ne sont pas que des musiciens de jazz et pas que des musiciens américains.
Oui.
Mais la liste est magnifique et je suis bien content parce qu'il y a certains dans cette dédicace... qui ont déjà fait l'objet d'un certain nombre de chroniques.
Mais oui, d'un certain nombre de chroniques du Toups, qui a toujours un flair et un à-propos absolument époustouflant. Donc moi, je vous laisse... on va les laisser tous les deux, d'ailleurs. Hein. On laisse écouter ça, et puis on se retrouve dans 15 jours.
Eh oui.
Tadam.
Ta-da-ta-da.
Jay, if I want to take a shot in the middle of the day, it's all right. Fuck style.
We love roll call, y'all.
Boogie Down Productions, Rob Bass, Dana Dane, Molly Marr, Olatunji, Chuck D, Ray Charles, EPMD, EU, Alberta Hunter, Run DMC, Stetsasonic, Sugar Bear, John Coltrane, Big Daddy Kane, Salt and Pepper, Luther Vandross, McCoy Tyner, Biz Marquee, New Edition, Otis Redding, Anita Baker, Thelonious Monk, Marcus Miller, Branford Marcellus, James Brown, Wayne Shorter, Tracy Chapman, Miles Davis, Force MDs, Oliver Nelson, Fred Wesley, Maceo, Janet Jackson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Jimmy Jam, Terry Lewis, George Clinton, Count Basie, M2 May, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Dexter Gordon, Sam Cooke, Parliament Funkadelic, Al Jarreau, Teddy Pendergrass, Joe Williams, Wynton Marsalis, Phyllis Hyman, Sade, Sarah Vaughan, Roland Kirk, Keith Sweat, Cool Moe Dee, Prince, Ella Fitzgerald, Diana Reeves, Aretha Franklin, Bob Marley, Bessie Smith, Whitney Houston, Dionne Warwick, Steel Pulse, Little Richard, Mahalia Jackson, Jackie Wilson, Cannonball and Nat Adderley, Quincy Jones, Marvin Gaye, Charles Mingus, and Mary Lou Williams. We want to thank you all for making our lives just a little brighter here on We Love Radio.
On vous laisse entre de bonnes mains. La semaine prochaine, place à nos amis imaginaires. Restez bien à l'écoute de Radio G. Tchuss.
Viande. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de viande et celui qui vous parle, il a l'œil pour les bons morceaux.
Caresse métallique sur Radio G 101.5 FM, un mardi sur deux de 22h à minuit, l'émission qui te déchire les tympans.